Le président du CRIF, Yonatan Arfi, est à votre micro. Laurence Goldman, bonjour.
Bonjour Elsa, bonjour Yonatan Arfi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce RCJ Midi pour un tour d'horizon de l'actualité. Une actualité dominée une fois encore par l'antisémitisme avec plusieurs actes signalés ces derniers jours. Tout d'abord à Levallois-Perret, un rabbin représentant du Beth Rabat de la ville a été violemment pris pour cible au cri de sale juif. Son agresseur, qui était alcoolisé au moment des faits, a été interpellé par la police. À Grenoble, c'est la maison d'un autre rabbin qui a été incendié samedi. Selon sa fille, il s'agirait d'un incendie criminel à caractère antisémite. Une enquête est en cours. Et puis, ce week-end encore, à Angerville, près de Deauville, une famille a raconté avoir été mise dehors en pleine nuit par les propriétaires du Airbnb qu'elle avait loué. Elle dit avoir été insultée, intimidée par des chiens qui aboyaient. Ils n'en ont pas eu assez à Birkenau ou encore Vive la Palestine sont les insultes qui ont été proférer. De quelles informations disposez-vous, Yonatan Arfi, sur ces trois affaires? Est-ce que le caractère antisémite est avéré?
Alors, le SPCJ suit évidemment ces trois dossiers. Le caractère antisémite sera effectivement à démontrer de manière à confirmer sur chacune de ces affaires, puisqu'il faut attendre que les enquêtes soient réalisées. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles témoignent d'abord d'une atmosphère en ce moment où on sent bien que l'antisémitisme est décomplexé, qu'il est libéré dans la société. Et le fait de s'en prendre à des rabbins, ça n'est pas anodin. C'est une manière de viser, au fond, les visages les plus visibles de la présence juive dans la société française. S'en prendre à un rabbin, c'est vouloir effacer le juif de la société parce que, évidemment, le rabbin, c'est celui qui est identifiable publiquement comme juif. Il a donc une fonction particulière dans la société et c'est cette visibilité-là qui est aujourd'hui menacée, attaquée. On l'a vu avec les deux affaires que vous avez rappelées qui concernent directement des rabbins à la fois à Levallois et à Grenoble.
Est-ce que vous êtes systématiquement tenu informé en votre qualité de président du CRIF lorsque des actes antisémites sont commis, par exemple par le ministère de l'Intérieur, par le préfet de police?
Alors sur les actes les plus graves, on est effectivement informé. Le SPCJ l'est également et nous tient informé sur notamment les agressions physiques ou les actes qui sont les plus significatifs. Mais vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire que la masse des actes fait que les dirigeants d'institutions juives ne peuvent de toute façon pas être informés de chacun des actes individuels, tellement il y en a. Et donc, effectivement, sur les actes les plus graves, eh bien, on est informé au fur et à mesure des avancées.
Est-ce que vous notez depuis quelques jours, quelques semaines, un rebond des passages à l'acte antisémite, alors que sur les 6 derniers mois de cette année, le nombre d'actes antisémites avait baissé?
Je n'ai pas encore de statistiques détaillées sur les dernières semaines. Et donc on verra quand on les aura si effectivement la sensation que nous avons d'une forme d'antisémitisme plus massif et qui a une forme de vague à laquelle on fait face en ce moment se confirme ou pas. Il n'empêche que la sensation que nous avons tous, c'est que quelque chose s'est libéré, je le disais tout à l'heure, et que le passage qui s'est aussi accéléré, c'est celui de la haine d'Israël à la stigmatisation ou l'agression des Juifs en France. Et on sent bien que ce que nous pressentions, c'est-à-dire que la stigmatisation violente d'Israël produirait de l'antisémitisme, se produit malheureusement sous nos yeux aujourd'hui.
Les groupes WhatsApp, ils sont très nombreux et très actifs au sein de la communauté juive depuis le 7 octobre avec de multiples partages d'informations qui sont parfois fausses. Comme hier, il y avait un post qui disait que la ville de Créteil s'apprêtait à accueillir des réfugiés gazaouis. Ça a été formellement démenti par le président de la communauté juive. Comment on peut repérer, détecter ces fake news? Est-ce que ça fera partie des missions de cette coalition d'associations qui a été annoncée par Aurore Berger pour lutter contre la haine en ligne et dont le CRIF va faire partie?
Alors d'abord, sur les informations qui concernent l'antisémitisme en France, j'invite les auditeurs à d'abord vérifier qui est l'émetteur de l'information. Toujours vérifier l'émetteur, ça me paraît être la prudence élémentaire. Et notamment de se tourner vers les institutions juives, le CRIF, le Fonds social, le consistoire, le SPCJ, le service de protection de la communauté juive, qui a aussi la responsabilité de veiller à diffuser les informations relatives à la question de l'antisémitisme. Donc j'invite toujours à la prudence parce qu'il y a beaucoup de risques d'instrumentalisation, de manipulation, on le sait, parfois y compris avec des démarches qui peuvent être foncièrement hostiles et dangereuses. Concernant la deuxième partie de votre question sur ce qui a été annoncé par la ministre Aurore Berger, c'est au-delà d'une coalition, c'était surtout un moment de réunion autour de la ministre, mais aussi autour du président de l'ARCOM, qui a la responsabilité en France de labelliser des acteurs comme signaleurs de confiance par rapport à la haine en ligne. Et le CRIF est effectivement aujourd'hui signaleur de confiance, c'est-à-dire que nous avons un statut particulier qui nous permet de signaler auprès des plateformes, notamment de réseaux sociaux, les contenus haineux, antisémites, racistes, xénophobes, que nous constatons et qui font ensuite l'objet d'un traitement accéléré, privilégié, entre guillemets, par ces plateformes qui restent en dernier recours celles qui vont retirer les choses si ça leur paraît pertinent, mais nous avons la possibilité de signaler de manière privilégiée. L'objectif de cette réunion, c'était donc d'inciter plus d'associations en France à devenir signaleurs de confiance parce que le monde associatif, il va pouvoir, au fond, épauler le travail de veille et de signalement qui est nécessaire sur les réseaux sociaux compte tenu de la masse des contenus qui sont produits.
Ça rejoint ce que vous expliquez régulièrement, hein, c'est à la société civile et non pas uniquement aux politiques de s'emparer de ce sujet de lutte contre l'antisémitisme. Mais lorsqu'on voit des villes comme celle de Bordeaux qui reviennent sur leur jumelage avec une ville israélienne ou des élus à Gardanne qui appellent au boycott du concert du chanteur Amir au motif qu'il a fait son service militaire en Israël, est-ce que vous ne vous dites pas que finalement ce combat il est un peu perdu parce qu'à part quelques élus de droite ou des représentants de la communauté juive, peu s'en émeuvent finalement.
D'abord, c'est toujours difficile de mesurer les choses et je suis convaincu que les démarches les plus haineuses vis-à-vis des juifs sont heureusement portées par une minorité de nos concitoyens et il faut les combattre très fermement et il faut en parallèle continuer à éveiller les consciences du ventre mou de la société française qui, j'en suis sûr, peut entendre ce qu'il y a de dangereux dans cette démarche. Amir, par exemple, fait l'objet de quelques initiatives de boycott ici et là, mais je suis convaincu que la majorité des Français, d'abord, aiment Amir, aiment sa musique, ses chansons et sa manière d'être, mais surtout refusent que le monde de la culture soit pris en otage par des démarches idéologiques qui sont des démarches haineuses, dangereuses, qui divisent les Français. Et donc, on a la responsabilité de le dénoncer. Je l'ai dit il y a quelques jours, je le redis ici, boycotter Amir, c'est d'abord boycotter la France et boycotter la paix. Boycotter la France parce qu'Amir est un grand chanteur français et que s'en prendre à Amir, c'est évidemment s'en prendre à une part de notre patrimoine commun en France, au-delà évidemment de ses affinités personnelles et c'est bien son droit avec Israël.
Alors, il y a l'engagement des pouvoirs publics hein, dans la lutte contre l'antisémitisme avec cette loi contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Et sur le terrain, il y a ce professeur israélien qui devait intervenir cet été dans deux grandes écoles françaises, HEC et Polytechnique. Il a été déprogrammé à la dernière minute. Ils n'interviendront donc pas. Et il a décidé de déposer plainte. Son avocate a parlé d'un boycott académique des universités israélienne expliquant qu'il y avait de moins en moins d'universitaires israéliens qui étaient invités depuis le 7 octobre en France. Est-ce que c'est pas ça une lame de fond extrêmement inquiétante ?
Mais je vais vous dire, je m'inquiète beaucoup du boycott académique qu'on entend.
Vous reprenez expression.
Les cas notamment d'universités qui ont fait le choix de rompre des partenariats académiques. Hein. Je pense à ce qui s'était passé à Strasbourg, même si finalement ils sont revenus sur leur décision et heureusement. Mais je veux m'alerter devant vous notamment par rapport au boycott silencieux. Le boycott silencieux, c'est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Les accords qui ne se signeront jamais, non pas ceux qui sont rompus, mais ceux qui ne vont pas naître, ceux qui ne vont pas se développer, parce qu'au fond, il y aura eu, dès le départ, le refus d'initier quelque chose avec Israël. Ce boycott académique silencieux me paraît être une menace immense, à la fois pour Israël, mais évidemment aussi pour nos universités en France, quand elles cèdent à une forme de chantage en laissant les plus radicaux gagner, en laissant les discours de haine l'emporter, eh bien, c'est une partie de notre débat public qui s'essouffle, qui s'étouffe. Et je crains que ce soit ça qui soit en train de se passer sous nos yeux. Donc j'en appelle à la responsabilité des présidents d'université. Ce sont ceux qui, en dernier recours, doivent veiller à ce que leurs universités restent des lieux de pluralisme, des lieux de débat avec des opinions contradictoires qui puissent s'exprimer pour faire que bien des étudiants juifs ne soient jamais mis à l'index pour ce qu'ils pensent dans l'université.
Il y a 83 ans, aujourd'hui, Jonathan Arfi, le 16 juillet 1942, la police française procédait à la rafle du Veldiv. Le CRI va commémorer la plus grande vague d'arrestations de juifs en France sous l'occupation dimanche prochain. En 1995, le président Jacques Chirac avait officiellement reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des juifs. Est-ce que vous estimez que 30 ans plus tard, cette réalité n'est plus un sujet, elle est acquise, elle est comprise par nos concitoyens?
Vous voyez la force de la parole publique lorsqu'elle est claire, lorsqu'elle est assise sur des valeurs, lorsque un homme d'État comme Jacques Chirac, président de la République à ce moment-là, décide de reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. On voit que d'un coup, eh bien, ce qui était auparavant l'objet de débat est devenu une forme d'évidence pour des générations et des générations de Français. Et aujourd'hui, cette question-là n'est plus en soi polémique. Elle est d'une certaine manière réglée pour l'histoire et la vérité, et c'est le plan le plus important. Il y a d'autres combats à mener, hein, celui notamment contre l'instrumentalisation, la récupération de la mémoire de la Shoah pour la retourner contre les Juifs. On pourrait en débattre longuement, mais je suis fier de vivre dans un pays qui, il y a 30 ans, a été capable de ce mouvement de conscience.
Alors, vous rappelez la force de la parole publique hein, pour ce qui concerne ce célèbre discours de Jacques Chirac. Et Emmanuel Macron, elle est forte, sa parole publique, lorsqu'il instaure une journée nationale de commémoration de la réhabilitation par la justice du capitaine Dreyfus. Quel message il véhicule finalement, selon vous? Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce?
D'abord, je veux saluer cette décision.
C'est une bonne chose,
c'est une bonne chose, évidemment.
Et pourquoi?
C'est une bonne chose, évidemment, parce que la mémoire de Dreyfus, c'est la mémoire d'une période au cours de laquelle la France s'est divisée autour du sort d'un petit capitaine juif. Vous connaissez tous la phrase que l'on prête au père d'Emmanuel Lévinas, qui, voyant ça depuis sa Lituanie, se dit qu'un pays capable de se diviser sur le sort d'un petit capitaine juif, c'est un pays où il fallait vivre d'urgence. Eh bien, c'est la fidélité à ce qui s'est passé à ce moment-là. En France, s'est structuré un courant républicain et très attaché aux valeurs fondamentales de la République, qui a fait de la cause Dreyfusarde une cause, en fait, la colonne vertébrale d'une partie de l'engagement des intellectuels, d'une partie d'acteurs, de l'engagement d'acteurs publics qui ont façonné la société française d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. Nous devons beaucoup à la période de l'affaire Dreyfus. Je crois que le président de la République a parfaitement raison sur ce sujet-là, bien d'honorer la mémoire du capitaine Dreyfus en instaurant une journée d'hommage, mais qui sera une journée, je crois, de débat autour de l'actualité des combats de l'époque aussi.
Mais est-ce que ça risque pas quand même de nous entraîner dans une concurrence mémorielle avec d'autres communautés qui vivent en France, qui pourraient réclamer à leur tour des journées commémoratives? Est-ce que ça va pas participer d'une sorte de fracture dans nos valeurs républicaines universalistes?
Mais je crois que
si chacun se met à réclamer sa journée...
Non, mais attendez, l'histoire du capitaine Dreyfus, elle appartient à tous les Français. C'est un moment fondateur pour la République. C'est un moment fondateur pour nous, Français juifs, qui avons vu, d'une certaine manière, un antisémitisme exploser dans la société française et puis ensuite être contenu, notamment par les institutions, par la justice qui a fait son œuvre, par la mobilisation des intellectuels, par la mobilisation d'acteurs militants associatifs aussi, déjà à l'époque. Donc on voit qu'on a, d'une certaine manière, eu deux France, déjà au moment de l'affaire Dreyfus, deux France qui continuent à s'opposer jusqu'à sous nos yeux, d'une certaine manière. Notre responsabilité, c'est de tout faire pour que la France la plus lumineuse l'emporte toujours sur la France la plus sombre. Honorer ça, c'est pas simplement honorer, d'une certaine manière, une part de l'histoire des Français juifs. C'est surtout honorer un épisode extrêmement important de la construction de notre conscience républicaine qui, elle, est un sujet parfaitement universaliste.
À ce propos, Yosef Murciano, le président de l'Union des étudiants juifs de France, donc qui est vraiment en prise avec le terrain, il était à ce micro vendredi un invité d'Elsa Pariente. Il a évoqué une sorte d'incompréhension de la part de nos compatriotes français face au fait d'être juif. Cette identité juive qui nous relie également en Israël, qui est très complexe. Est-ce que finalement, depuis l'affaire Dreyfus, même auparavant, c'est pas ça le fond du problème? Les gens ne comprennent pas qui nous sommes et on n'arrive pas à l'expliquer en fin de compte.
Il y a une complexité dans le fait juif. Il faut la regarder en face, cette complexité, l'assumer. Être juif, ça n'est pas simplement une confession. Et une partie de nos concitoyens font peut-être l'erreur de bonne foi, c'est le cas de le dire, de considérer que l'identité juive ne se réduirait qu'au judaïsme, qu'à notre foi, notre confession religieuse. Évidemment, le fait juif va bien au-delà. C'est un fait culturel, un fait politique, un fait mémoriel. Et on a la responsabilité, nous, de démontrer en permanence que l'identité juive, elle est pluridimensionnelle et que, bien sûr, il faut l'expliquer à nos concitoyens qui ne le saisissent pas. Nous ne sommes pas simplement des Français qui allons à la messe le samedi au lieu du dimanche. Ce serait d'une certaine manière, le regard que certains portent sur les Français juifs. Le fait juif va bien au-delà de ça, évidemment.
Mais est-ce que justement cette incompréhension, elle ne va pas jusqu'au plus haut sommet de l'État avec une espèce de « en même temps » de la part d'Emmanuel Macron? Alors d'un côté, il instaure cette journée nationale à la mémoire de Dreyfus, et puis de l'autre côté, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, il tient des propos très durs à l'égard d'Israël. On peut décorréler comme ça les deux?
Alors on peut parler à nouveau du président de la République et la politique étrangère française.
Ce qu'il interroge le président de la République aujourd'hui.
Oui, j'entends bien ce qui traverse la communauté dans le rapport à l'exécutif. C'est effectivement un moment de questionnement par rapport à beaucoup de positions. Le CRIF, à plusieurs reprises, a exprimé des désaccords publiquement sur tel ou tel élément de notre politique étrangère, notamment, mais pas seulement. Néanmoins, effectivement, on a globalement, dans la puissance publique aujourd'hui en France, des acteurs qui sont très engagés sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Il faut quand même le reconnaître. J'invite à prendre du recul sur l'histoire juive, l'histoire des Français juifs. Je crois que jamais nous n'avons eu dans notre pays des gouvernants, de manière générale, aussi engagés pour la sécurité des Français juifs, aussi engagés dans le combat contre l'antisémitisme. Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce qu'il faut faire plus? Évidemment, c'est notre responsabilité de le demander, mais je souhaite que nous soyons aussi mesurés et aussi reconnaissants parfois par rapport à ce qui est fait. Je suis vice-président du Congrès juif européen et du Congrès juif mondial au titre de mes fonctions au CRIF. Je peux vous dire que quand on parle avec des juifs en Belgique, quand on parle avec des juifs dans beaucoup de pays d'Europe ou de pays du monde, ils se disent qu'en France, nous avons au moins la chance d'avoir des acteurs au gouvernement engagés avec nous dans le combat contre l'antisémitisme.
Une dernière question, Yonatan Arfi. 43 ans après les faits, le parquet national antiterroriste a requis le renvoi devant la justice française de 6 personnes dans le cadre de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers qui avait fait 6 morts, on s'en souvient, c'était à l'été 82 à Paris. Quelle sera la vertu de ce procès s'il a lieu aussi longtemps après les faits?
D'abord, 43 ans, il faut mesurer ce que ça représente. C'est l'essentiel d'une vie quasiment pour beaucoup et c'est une errance judiciaire qui est incompréhensible et d'une certaine manière injustifiable. Alors évidemment, maintenant, je suis heureux que cette errance prenne fin, qu'un procès puisse enfin se tenir. Il va permettre d'abord aux familles des victimes de commencer réellement leur deuil parce que tant que le procès n'a pas eu lieu, et bien effectivement, pour les familles, c'est extrêmement douloureux et extrêmement difficile de commencer leur travail de deuil. Et puis, ça va être l'occasion aussi d'expliquer que l'antisémitisme qui prend sa source ou qui prend prétexte du conflit au Proche-Orient pour venir cibler et tuer des Français juifs, eh bien, ça n'est pas nouveau, malheureusement, que déjà au début des années 80, rue Copernic et rue des Rosiers, nous avions eu, au fond, les prémices de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une haine des Juifs qui prend prétexte de la haine d'Israël. Voilà la réalité de ce que sera, je l'espère, ce procès qui s'ouvrira devant la cour d'assises bientôt.
Merci Yonatan Arfi, merci d'avoir répondu aux questions de RCJ.